Fun for you avec Partenamut sur Fun Radio.
Et salut tout le monde, bienvenue dans le 36e épisode du podcast Fun for you. Comme chaque semaine, on se retrouve sur funradio.be, sur l'application Fun Radio BE, avec aujourd'hui comme invité une star du petit écran. Fun Radio. Mon invité aujourd'hui s'appelle Mathieu Delormeau. Bonjour Mathieu.
Bonjour Simon.
Tu viens nous présenter ton livre Addiction, il a suffi d'une fois, sorti aux éditions Le Duc. Un livre dans lequel tu reviens sans tabou sur les 3 dernières années de ta vie, 3 années marquées par une addiction à la cocaïne, au GHB et aux médicaments, et sur le parcours que tu mènes aujourd'hui pour te sortir de cette situation, pour sortir la tête de l'eau et te reconstruire. Première question Mathieu, comment ça va aujourd'hui?
Ben la tête est sortie. Mais vraiment, mon psychiatre avait raison, il m'avait dit il faut être patient, on appelle un patient patient, justement, parce que pour être soigné, il faut être patient. Et il faudra à peu près un an, je vais pas vous mentir, et on arrive à peu près à un an, et effectivement, là, le déclic s'est fait il y a quelques semaines. Même il y a quelques... Allez, il y a encore 2-3 mois, la promo était différente. Je venais en promo, c'était plus une lutte. Là, comme tu me vois, c'est... Je ne prends plus rien, zéro médicament, plus d'anxiolytique, plus rien. Et... Oui, je pense que j'ai rarement été heureux depuis très 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 longtemps. Je l'ai payé cher, mais enfin, je veux dire, ça a un prix tout ça, mais on y est.
Alors dans ce livre, tu reviens aussi sur ton parcours. À 26 ans, après une école de commerce à Montréal, tu deviens analyste financier, un métier dans lequel tu gagnes très bien ta vie. Seul problème, ce métier, c'est pas ton rêve à toi, c'est plutôt le rêve de ton père. Toi, tu rêves de faire de la télé. Comment tu as fait pour passer de la finance à la télévision?
J'aime bien la phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'en pouvais plus. Et on m'avait proposé à l'époque, ils fermaient la partie France, ils m'ont dit « Faut qu'on aille en Angleterre ». Et là, j'ai dit « Mathieu, si tu pars à Londres, à la City, c'est fini. T'auras un crédit, un chien et ta vie, elle est tracée ». Et donc, j'ai dit « J'y vais pas ». Donc, je me suis retrouvé au chômage, serveur. Je laisse imaginer la tête de mon père quand alors qu'il avait payé 8 ans d'études, le prix d'une Mercedes, il voyait son fils à la City avec une cravate et je lui ai dit « Je veux être animateur de télé, je suis gay ». Ah. Ok, sympa. Mais effectivement, et après, j'ai pris mon courage, j'ai écrit une lettre que j'ai envoyée à plusieurs animateurs, dont Marc-Olivier Fogiel. Et, les hasards de la vie, il a répondu à cette lettre, il m'a donné un rendez-vous et j'ai commencé comme stagiaire. Ça, j'aime bien être toi, le ciel t'aidera, mais donne la première impulsion et si la vie est bien faite, elle va faire le reste.
Ce qui est assez marrant, c'est que tes débuts à la télé, ils sont aussi liés à une personnalité belge, tu la cites dans le livre, oui. Virginie Ferra. Tu étais son assistant et c'est elle qui t'a encouragé à passer tes premiers castings.
Oui. C'était drôle parce qu'on travaillait ensemble et moi je lui écrivais ses prompteurs de télé. Ouais. On était à 4 du matin dans un petit bureau, on mangeait des sushis, on écrivait tous les deux, on était hyper potes. Je la ramenais à son hôtel après. Elle était pas du tout connue en France, pas du tout. Et elle, moi je rêvais de faire son métier et elle rêvait d'être comédienne.
Ouais.
Donc et on était 4 mois décalés. Et effectivement après elle s'est rapprochée de Canal pour faire du cinéma. Et moi, un jour, effectivement, elle m'a dit, il y a un casting qui se passe à Canal. Je me dis, mais t'es pas sérieuse? Elle me dit, comment je vais y aller? Je vais t'aider juste pour t'inscrire. Elle m'a aidé pour m'inscrire. Et là encore, la vie, elle fait le reste. On était 45 à le faire à peu près. Je l'ai fait devant Maïtina Birabin et elle m'a engagé. Et j'ai commencé, chroniqueur de Nous sommes pas des anges. C'est drôle. Je suis content de le succès qu'elle a maintenant. Franchement, quand je la vois, c'est rigolo. Je me souviens de tous ces moments que je vois maintenant. Elle est césarisée et tout, c'est une star.
La suite, on la connaît. Elle se passe sur NRJ 12, notamment avec Tellement Vrai, Le Mag, la Star Academy. Sur C8 avec Touche pas à mon poste. Et puis, depuis quelques mois, dans Tout beau, tout neuf, sur W9 et sur RTL Plug en Belgique. Et pourtant, il y a 3 ans, tout va bien dans ta vie. Tu es en couple. Tu es chroniqueur dans TPMP quand l'émission cartonne. Et pourtant, ta vie t'ennuie. Tu es à l'aube de tes 50 ans. Tu remets tout en question et tu décides de quitter l'émission. C'est là que, tu découvres finalement, pour la première fois, le GHB, la cocaïne, au début de manière assez récréative. Mais très vite, tu rentres dans une addiction. Qu'est-ce qui t'a fait arriver là-dedans finalement?
Sans m'en rendre compte, tu dis tout allait bien dans ta vie, mais non, je pense que tout n'allait pas bien dans ma vie justement. Je pense que je masquais une dépression, une anxiété très forte.
Tout avait l'air de bien aller dans ta vie.
Voilà,
moi.
Mais je travaillais de 9h à 22h, ouais. Je partais à 9h, je faisais du sport, après j'étais dans ma boîte de production, à 18h quand tout le monde quittait la boîte, moi j'allais à TPMP, 18h30 maquillage, rentrais chez moi, il était 22h, ça n'arrêtait jamais. Mais évidemment, cette course, elle masquait quelque chose. Tu vois, je voulais amasser de l'argent, du machin, notoriété. Et puis un jour, ça m'a pété la gueule, comme on dit. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais plus bien. Je vais tout arrêter. Sans me rendre compte qu'en fait, c'était le dernier amarre qui me tenait encore à peu près à la vie. Et là, quand j'ai quitté mon copain, quitté la télé, tout quitté, et que je me suis retrouvé seul, j'avais plus rien pour m'empêcher de partir vers quelque chose que je ne connaissais pas. Mais, la drogue, il faut le dire, Simon, c'est bien le problème. C'est que c'est bon. C'est bien pour ça qu'il faut pas y toucher. Le jour où t'y touches, tous tes problèmes s'en vont. Enfin, que tu crois.
Tu compares justement la prise de drogue à un avion au décollage. Il y a l'avion accélère, prend de la vitesse. Mais en cas de problème, il y a toujours moyen de freiner. Et puis il y a la V2. Une fois que la vitesse critique est franchie, il n'y a plus du tout de retour en arrière possible pour cet avion. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte finalement qu'il était peut-être trop tard?
Que le réacteur était en feu, que je vais décoller quand même. un jour tout bête, je mentais à tout le monde et je disais notamment à mon associé que je faisais du télétravail. Alors ouais. que pas du tout, je me droguais du matin. La première chose que je faisais le matin, c'était prendre de la drogue jusqu'au soir où là, quand j'en pouvais plus, je prenais un anxiolytique et je dormais. Enfin, c'était pathétique, horrible. Et ben un jour, il m'appelle, il me dit regarde les comptes de la boîte, il y a plus de trésorerie, il y a plus rien. On avait 20 salariés. Je dis bon, allez, je me charge, il me restait 3 grammes de cocaïne, j'ai tout foutu à la poubelle. J'y allais. On arrête les bêtises, pas de problème. J'arrête quand je veux et je me mets devant l'ordinateur. Et là, ben je me rends compte que je vois un flou, que je transpire, que je ne peux même pas répondre à SMS. Rem, je tremble. J'ai des vomissements, je vomis alors que j'ai rien mangé, je ne peux rien avaler, je me remets sur mon canapé, je tremble en transpirant, enfin tous les syndromes du manque. Et là, je suis obligé de recommander de la cocaïne pour travailler et sauver la boîte.
Comment tu as fait pour cacher tout ça à ton entourage? Tu parles de ton associé, mais il y a aussi ta famille, les gens qui te suivent peut-être. Comment tu as fait pour que personne ne s'en doute?
Bah déjà, je pense que ça t'est arrivé aussi. On ne voit jamais les gens qu'on a en face de soi. Hein. Mmh. Tu sais, c'est comme les parents qui, les pauvres, sont très tristes de voir que leur enfant, je sais pas, fait une tentative de suicide parce qu'il est harcelé à l'école. C'est pas méchant, mais ils l'ont pas vu. Le gamin rentré ce soir est dans sa chambre. C'est vrai que, bah mes amis, je leur disais que on devient très intelligent quand on est drogué. Quand enfin j'ai fait des choses incroyables. J'ai passé de la drogue à travers les frontières, machin. Tu ne réfléchis plus à rien. Et bah oui, je disais aux gens que j'étais occupé, que je pouvais pas, que je faisais du sport. Que machin, bon, que je fais du télétravail. Bon, puis la vie avance, on a tous nos emmerdes, donc les gens te croient, quoi.
Et à un moment donné, tu l'expliques dans ce livre, hein, tu as multiplié les relations sexuelles, tu couches avec 300 garçons en un an. Comment les gens réagissaient finalement quand ils remarquaient que derrière cette personne avec qui ils parlaient sur des applications, ce genre de choses, c'était Mathieu Delormeau, l'homme de la télé?
C'est horrible cette période. Quand je t'entends dire le chiffre, c'est horrible. C'est horrible parce que, en plus, les gens qui venaient pour des mauvaises raisons, si tu veux, ils savaient tous que c'était open bar, c'est de leur mot, quoi. Ouais. Les gens, tu sais, les gens drogués à 4h du matin que tu trouves sur des sites, qui te disent, tu leur dis salut, tu veux passer chez moi, t'as de la drogue? Non mais moi, ma photo c'est ça, non, t'as de la drogue? Ils iraient chez n'importe qui. Donc je récupérais, bah voilà, les gens venaient pour avoir de la drogue gratuite, je payais les taxis, tout. Les gens venaient un peu pour voir l'animateur, comment c'est chez lui, un peu parce qu'ils savaient que j'avais un peu d'argent, un peu ceux qui voulaient faire de la télévision plus tard. Enfin, c'était horrible, horrible, horrible. Mais jusqu'à le truc le plus horrible du monde, je crois. C'est qu'un jour, il y a, dans tous les garçons qui sont passés, il y en a un qui passe un jour et au moment d'arriver chez moi, il me dit, en fait, je vais repartir. Je sais pourquoi. Bah, je suis désolé, mais en fait, en vrai, t'es pas bien, t'es pas beau, hein. Et là, si tu veux, là, t'es seul avec ta drogue, t'es en descente. Et en plus, bah, il y a un mec qui constitue la vérité, quoi. Mais tu ressembles plus à rien. T'as pas fait de sport depuis un an, t'es dans ton appartement. T'es dégueulasse. C'est horrible.
Tu disais, il y a des garçons qui profitaient justement de toi, ton argent, comme ce jeune homme, dont tu as trouvé le journal intime, et dans lequel il était écrit que pour coucher avec toi, il faudrait plus d'avantages en échange. Tu disais, en quelque sorte, son sugar daddy, alors que, à tes yeux, cette relation, c'était pas vraiment ça.
Non, mais, j'étais tellement paumé que j'avais besoin d'un trophée, quoi. Il y a un garçon qui était beau, qui était musclé, machin. Je me disais, bon, bah, s'il est amoureux de moi, c'est que je suis encore beau et musclé, quoi. Et puis, c'est vrai qu'il tenait un journal intime et un matin, je me réveille et je tombe dessus. Et malheureusement, je fais ce qu'il faut jamais faire, hein. Fouiller dans les portables, regarder un truc, faut jamais faire ça, hein. Quand on cherche, on trouve. Et je trouve cette phrase horrible. Il veut coucher avec moi, je n'en ai pas envie. Si vraiment il le veut, il faudra me donner plus.
Quand tu parles justement de ces relations, tu parles d'un ratio argent-baise qui est quand même assez bon. C'est quand même violent de dire ça.
Mais parce que, je sais pas en Belgique, mais c'est vrai que j'avais rarement remarqué à quel point en France maintenant il y a une jeune génération qui est tellement paumée. Je n'imaginais pas, moi, pardon de vous le dire, mais dans ma génération à moi, on appelle ça des putes, maintenant on appelle ça des escortes, ça fait plus chic. Mais bon, c'est la même chose. Et moi, dans ma génération, j'ai jamais été voir un animateur ou machin, c'est même pas venu à l'esprit. Et c'est vrai que là, bah, si tu veux, il y a cette génération qui veut un sugar daddy, comme tu dis. Ça veut dire que c'est un mec qui s'occupe d'eux, qui les font vivre. Ils les payent pas, mais ils les font vivre une jolie monde, des beaux week-ends. Et c'est vrai que si tu veux que le mec ait pas mal d'argent, bah soit il a 75 ans, c'est un peu compliqué de coucher avec, soit il a 30 ans, il a pas d'argent. Ouais. Bah de leur mode, c'est de mon ratio. Il a déjà du pognon, il est connu, puis il n'est pas encore trop décati.
Pas assez pour un voyage en jet privé, mais assez pour une Rolex. Ouais, c'est ce que tu dis dans
même
le livre.
Même si tu dois faire un effort pour coucher, c'est pas une catastrophe non plus. Toi, t'as pas non plus une horreur. Ouais, c'est un bon ratio.
Alors ta consommation, elle va également te faire vivre une première garde à vue, que la presse va te faire un malin plaisir de relayer. Et comme toujours, pas mal de fake news commencent à circuler. Il y avait l'affaire Palmade, hein, qui avait eu lieu quelques mois avant, qui est toujours fraîche dans la tête des gens. Et toi, tu souffres quand même un peu de la comparaison avec cette affaire, alors qu'on est sur deux histoires complètement différentes.
Bah parce que je suis en train de découvrir que l'addiction c'est une maladie,
ouais.
Que ce soit l'alcool, tout ça, et que c'est une maladie, donc il faut traiter ces gens-là dont j'étais. T'as vu, je me mets plus dedans. Mais bah comme des gens malades. D'ailleurs, je le suis à vie. J'ai un monstre en moi que j'ai endormi. Voilà, qui dort en moi, mais il faut pas le réveiller. Mais voilà, mais et on traite ces gens. J'essaie de comprendre que ces gens étaient malades et faire comprendre à la société arrêtez d'être coupable. Vous êtes malade et vous n'êtes pas plus coupable. Pardon. Que est-ce que ça viendrait à l'esprit de dire à quelqu'un qui fumait 3 paquets de cigarettes par jour pendant 30 ans, t'as un cancer du poumon? Bah tu sais quoi? Bien cherché. Non.
Non.
Tu veux dire mon pauvre, t'es malade.
Ouais.
Bon bah voilà. Bah pourquoi tu veux dire à quelqu'un qui prend de la drogue alors que c'est pas de sa faute, il y a une partie du cerveau qui est complètement allumée, c'est de ta faute. J'essaie de faire comprendre ça au moment où il a l'affaire Palmade. Et Palmade, c'est le mec qui a de l'argent, humoriste, qui fait la fête avec ses potes et hop, il prend sa bagnole, il tue une famille. Enfin, il tue une famille. Il esquinte une famille. C'est 10 ans d'essayer de compréhension de la maladie, d'acceptation de la maladie pour des gens qu'on vient de flinguer en 2 minutes. Donc je me sens encore plus coupable d'être.
En plus, tu l'expliques pour toi, les voitures par exemple, elles sont bien restées au garage. Ah oui. Tu n'as pas pris de risque.
J'ai eu cette chance, voilà. Je n'ai fait du mal qu'à moi. Sinon, je pense pas que j'aimerais comme ça autant témoigner.
Et cette garde à vue, justement, ça a été un électrochoc pour toi puisque tu as décidé de prendre rendez-vous pour une cure de désintoxication. Mmh. Comment ça s'est passé cette cure?
Déjà la veille. Un peu comme quelqu'un qui va faire un régime.
Ouais.
Donc la veille, je me dis, bon, allez, demain j'attaque un régime, ce soir c'est hamburger. Bim. Donc la veille, je dis à mes potes, allez les gars, à partir de demain je vais te soigner. Je pensais qu'une cure, tu allais, tu repartais pour sortir, tu étais soigné, tu vois. Et donc évidemment la veille, bim, je me déglingue. Donc j'ai rendez-vous le lendemain à 11h, jamais ils me voient. Et tu sais, les cures, c'est très précis, tu rentres pas comme tu veux, c'est pas un hôpital, hein. C'est un rendez-vous à 11h, si tu rates ton coup, ça peut être lundi suivant. Il y a beaucoup de demandes, malheureusement en France, on manque au moins de 30-35% de psychiatres. Il y a parfois 6 semaines d'attente. Je vais s'imaginer ce que c'est que 6 semaines quand t'es drogué, d'attendre 6 semaines, ça peut être un suicide, n'importe quoi. Donc évidemment, je me présente avec 4 heures de retard, ils me prennent quand même. Et après, pour moi, il y a des gens qui ont adoré ça, parce qu'ils sont maternés. Pour moi, c'est un souvenir d'horreur. Pour moi, c'est vraiment, ça a été une prison. Vraiment une prison. Et d'ailleurs, j'en ai fait 3, et à la 4e, mon psychiatre a dit, on va la faire dans ce qu'on appelle ambulatoire, tu vas la faire chez toi et je te suivrai. Mais c'était pas possible pour moi, ça.
Tu lèves d'ailleurs le voile sur certains secrets de comment se passent des cures avec des choses assez étonnantes. Je pense notamment à cette fameuse lingette hydroalcoolique.
Bien sûr.
C'est vraiment assez intéressant de savoir comment ça se passe vraiment. Et justement, tu en parlais, cette cure, c'est la première d'une longue série. Au total, tu dépenses quand même 30 000 euros en France, en Suisse. Finalement, ces cures,
au moins.
C'est le chiffre que j'ai vu dans une interview.
Ça sera à peu près 40 000 balles, je dirais, à peu près. Oui, c'est ça. Ouais.
Est-ce qu'elles ont quand même servi à quelque chose, finalement, ces cures? Parce qu'il y en a beaucoup que t'as écourté, malheureusement.
Oui, il y en a que j'ai écourté. Alors c'est horrible aussi parce que t'es encore plus dans la culpabilité parce qu'évidemment quand tu vas faire une cure, tous tes potes sont là. Hey, vas-y, tu vas y arriver. Et puis pif, le lendemain tu reviens. La première ils sont potes avec toi, la deuxième, la troisième ils disent oh quand même t'es relou, tu pourras y arriver quoi. Si c'était si simple, mais c'est vrai que moi j'ai elles m'ont servi parce que c'est pas tant les médecins qui m'ont servi. En gros, quand t'arrives là-bas, on va être très honnête, hein. Et moi, je pourrais être psychiatre aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que les médecins, ils te foutent des anxiolytiques à mort. T'es un zombie du matin au soir. C'est tout. Et tu repars de là, et on te sevre pendant 3 ou 6 semaines, et tu ressors de là. Mais la cause est toujours là. Moi, ce qui m'a servi surtout, c'est que, dans la cour, tu discutes avec les gens. Puis là-bas, t'es pas maître de leurs mots, t'es pas producteur, t'es pas animateur, t'es pas ce que tu veux, hein. T'as pas une Porsche et tout ça, hein. Là-bas, y a de tout. Et j'ai vu des choses tellement horribles. Effectivement, j'ai vu des gens qui mangeaient des lingettes d'alcool hydroalcoolique tellement hésités. J'ai vu un mec qui avait fait un AVC, qui buvait 2 bouteilles de vodka et 1 bouteille de rosé par jour. J'ai vu un gamin de 18 ans qui avait été foutu là parce qu'il avait vendu la Rolex de son père qui valait 50 000 euros contre 50 euros pour tout 3MC. Enfin, là, tu côtoies vraiment la misère humaine. Mais le plus dur pour moi, c'est quand j'en ai fait quand je suis retourné dans cette cure une deuxième fois, j'arrive et je vois toutes les mêmes têtes 8 mois après. Hey, salut Mathieu, comment ça va? Et toi, tu c'est toujours la chambre 114, machin? J'ai dit, comment ça? Donc c'était une évidence pour tous, que j'allais revenir.
Ouais.
Il y en a qui étaient là pour la 7e fois. Et là, j'ai pris conscience que, waouh, je m'en sortirais peut-être jamais, en fait.
Alors, quelques mois avant son retour sur W9, Cyril Hanouna t'appelle et te propose d'intégrer cette nouvelle émission, Tout Beau Tout Neuf. Une annonce qui arrive finalement au bon moment. Tu le dis d'ailleurs dans ton livre. À ce moment-là, Cyril t'a quasi sauvé la vie.
Bah oui, parce que d'abord, il m'appelle, j'étais en cure.
Ouais.
Et quand t'es en cure, t'as plus rien, quoi. Physiquement, tu ressembles à rien. T'as plus de projet. T'as plus rien. Ça fait 2 ans que je faisais rien. Donc j'avais un contrôle fiscal. Le fisc, il s'en fout de tes problèmes, hein. Les huissiers venaient. Oh, tout est horrible. Tout. T'as plus rien. T'as plus de corps. T'as plus d'argent. T'as plus de tel fisc le fisc qui me demandait des papiers toutes les semaines pour justifier ça. Mais mec, j'en sais rien. Je suis en cure. Je m'en tape. Et c'est vrai qu'il m'appelle et il me dit, voilà, j'ai affaire de l'antenne. Moi, je savais très bien que c'était mon métier. J'aimais ça. Mais personne ne veut travailler avec moi. Qui va travailler avec un mec qui a fait 3 gardes à vue, s'il te plaît? Qui? personne. Les chaînes sont payées par de la pub, hein. Et il me dit, t'inquiète pas, moi je vais t'imposer sur la chaîne et tu vas revenir. Et effectivement, oui, c'est un amour parce que je suis revenu. Alors, dans un état, fallait voir en septembre, tout le monde me dit après, on pensait pas que tu tiendrais. Et puis après, la vie m'a récompensé. Il y a un éditeur qui m'a vu faire l'interview, qui m'a trouvé touchant. Puis de là, ce bouquin. Et puis de là, tout ce qui m'était arrivé, y compris aujourd'hui en face de toi.
Et pourtant, cet été-là, on a quand même frôlé le drame avec une vidéo privée qui se retrouve malheureusement
en story
sur
Instagram.
Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, finalement, Mathieu?
Il s'est passé que ce soir-là, il n'y avait pas de drogue, contrairement à ce qu'on pensait, mais ce soir-là, j'étais... Enfin, si, de la drogue, mais médicamenteuse. Mm-hmm. C'est important d'en parler.
Oui, parce qu'il y a un switch d'une drogue, on va
bien
dire,
sûr,
plus classique à une addiction aux médicaments.
Faut quand même bien dire que l'addiction aux médicaments, c'est une catastrophe. C'est presque pire que l'addiction à la cocaïne. C'est juste que comme on a une ordonnance dans la main, on pense pas que c'est mal. Mais l'addiction aux anxiolytiques, je me souviens quand mon psychiatre m'a dit un jour, parce qu'il voyait très bien qu'il m'en prescrivait, mais qu'au bout de, c'était bon pour un mois, au bout de deux semaines, j'en avais plus. Et un jour, il me dit très gentiment, il te brusque pas, ton psy. Mais je vous préviens, je sais que, je vous préviens, si vous prenez trop d'anxiolytiques, il va y avoir un deuxième sevrage, et celui-là est encore plus dur que celui de la cocaïne. J'ai dit oui, docteur, je suis rentré sur mon vélo, je pleurais, parce que je savais qu'il savait, et moi je savais que j'étais planté avec ça. Vraiment. Et du coup, c'était quoi la question, pardon?
On parlait de cette fameuse vidéo qui s'est retrouvée sur Instagram par erreur.
Là, un soir, je rentre chez moi et comme d'habitude, j'ai pas de drogue, j'ai rien. Et je veux m'assommer. Mais tu vois, comme Michael Jackson avec le propofol, je ne veux pas m'endormir. Je veux m'assommer. Je veux même pas qu'en 5 minutes, je dorme. Donc, je me prends un anxiolytique. En gros, tu dois en prendre 10 mg. Je prends 40 mg. L'autodestruction totale. Je prends mon téléphone dans les mains. Là, quand t'as pris 40 mg, t'as 5 minutes d'autonomie, hein. Et j'ai un pote qui m'envoie, il paraît que tu refais de la muscu, t'es beau gosse. Bon, et là, je prends mon téléphone et je me filme un peu. Et oui, je simule un peu ce qui est faux parce que je ne sais pas du tout.
Sûr.
Je suis pas en état pour, hein. Pardon de te le dire, mais en fait, tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Et là, je me vois encore et mon téléphone, pim, me tombe des mains et je m'endors.
Ouais.
La preuve en est. Pour convaincre les gens, elle est restée 42 minutes en ligne. Tu penses bien que si j'avais été réveillé, mon téléphone a sonné 500 fois, j'ai eu 600 messages, j'ai fait la une même à Londres du Mirror, en Espagne, un animador que c'est masturbation. Tu vois, j'ai fait la une. Tu vois, je m'en serais bien passé. Quand je me suis réveillé le lendemain, je peux pas te dire, je pleurais sur mon canapé, je savais plus quoi te dire, j'avais 600 messages, ma pauvre famille qui avait déjà subi les trois gardes à vue, ma sœur qui bosse à TF1 et bim, je t'en remets une couche. Quelle horreur. Je te jure que j'en parle de tout ça, c'est horrible.
Tu parles de ta sœur ce soir-là en plus, hasard du calendrier, c'était les 50 ans de TF1. Et dans ton livre,
50,
tu le dis, c'est 50 ans 50. Je pense. Tu le dis dans ton livre, ce soir-là, tu l'as plaint de porter ton nom.
Bah oui, la pauvre.
Elles en sont où vos relations avec ta sœur?
Alors, on s'est jamais reparlé. Après cette vidéo où elle m'en a voulu, elle a raison, parce qu'elle en avait marre. Et en même temps, elle a raison, et en même temps, elle avait pas raison, parce qu'en même temps, j'étais malade. J'aurais bien aimé qu'elle comprenne que j'étais malade, que je faisais pas ça pour lui faire du mal. C'est vrai qu'un jour, elle m'a dit, est-ce que tu te rends compte du mal que tu nous fais? Mais je lui en veux pas. Je pense qu'elle savait pas ce que c'était. Et puis, la pauvre, je mets à sa place. Enfin, elle subit ça tout le temps. On lui parle tout le temps de son frère dans les couloirs. Là, c'est la fête de TF1. Ça fait 50 ans. Elle est là. Elle prend une coupe de champagne et bim! Tout le monde sur le portable. Ding, 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 ding. Ah, bah, tiens, Julie. Oh, je peux comprendre. Je peux comprendre. On s'est jamais reparlé. Mais, là, le bouquin, je suis content, est en train de fonctionner aussi dans ce cas-là, c'est que mes neveux m'ont renvoyé un texto. Là, cette semaine tout juste, j'ai revu ma cousine Germaine, je ne l'ai pas vue depuis des années aussi. On se voit tout le temps et je sais que je vais revoir mes neveux parce qu'il est en vacances et puis que je vais retendre la main à ma sœur et je sais qu'elle va l'accepter. C'est ma sœur. Je vais revoir mon père, tout ça et puis juste on leur dire, allez, vous savez quoi, on balaye tout, pardon, et on s'aime. Ouais, on passe à autre chose.
Et pour ceux qui t'ont suivi à la télévision, dans le mag notamment, il y avait un de tes chroniqueurs, Benoît Dubois, grand gagnant de Secret Story 4, ton ami fidèle depuis de nombreuses années, un véritable soutien aussi pendant toute cette période. Il ne t'a jamais lâché. Qu'est-ce que t'aimerais dire aujourd'hui à Benoît?
Ah, c'est... merci. Je trouve que c'est le mot le plus beau de la langue française. Merci. Voilà, parce que il m'a donné quelque chose qui n'a pas de prix. Moi, j'étais persuadé jusqu'à aujourd'hui que il fallait... quand on voulait montrer quelque chose, il fallait donner de l'argent. Si je t'aime, je vais t'offrir une Rolex. Si je t'aime, je t'offrirai une belle voiture, machin. Lui, il m'a donné son temps. Et ça n'a pas de prix. On a le nombre de fois où tu peux pas imaginer, mais il voyait que il savait très bien qu'il fallait que je sois en forme pour aller mieux. Il disait, viens, on va chez le coiffeur. Il prenait rendez-vous chez le coiffeur. Il venait me chercher en taxi. Il m'a amené chez le coiffeur. J'étais comme ça sur le salon du truc. Et hop, il me disait, faut lui faire telle coupe. Après, on allait dans les boutiques. Il se disait, c'est que pour moi. Quand tu as eu le mariage de ma sœur, je devais y aller une fois. Il a été dans une boutique dans Paris. avant moi. Moi, j'étais chez moi. Il était dans la boutique. Il a regardé les costumes. Il a fait plusieurs boutiques. Puis après, il a dit, Monsieur Delormeau va arriver à 15h dans tel truc. Vous pourrez le prendre en main. On est arrivés ensemble. Il fallait que ça se fasse en 10 minutes. Il m'a mis d'un côté. On a tout fait parce qu'il savait que je tenais pas debout. Il m'a remis dans le taxi. Il m'a ramené chez lui. Il m'a donné son temps. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau?
Finalement, c'est ça la vraie amitié?
Ah, véritablement, oui.
Si quelqu'un nous écoute et se retrouve un peu dans ton histoire, qu'est-ce que t'aimerais lui dire aujourd'hui?
J'aimerais lui dire, lis le livre. Et si tu n'as pas les moyens de l'acheter, c'est pas du tout, je suis pas en train de te dire donne-moi de l'argent, je suis en train de dire fais de toi prêter, peu importe, je te l'envoie si tu veux. Mais lis le livre, lis ce livre que j'aurais aimé lire avant. Parce que si t'es en train de tomber dans l'addiction, je vais te sortir d'une panade dont t'as pas imaginé, le prix est trop cher, et on peut encore agir. Et si tu es dedans, je me souviens un jour j'étais à la pharmacie et je donne mon ordonnance à la pharmacienne, elle la regarde, elle relève les yeux, elle la regarde, tu vois, je vois qu'elle voit que c'est un truc pour cheval. Et elle part dans l'officine, et moi je me mets à pleurer. Et quand elle revient, elle dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit, bah, de toute façon, pour moi c'est fini, quoi. Maintenant c'est dans un an ou deux ans, ou dans trois ans, on me retrouvera avec une overdose. Et elle me dit, donnez-moi mon numéro de téléphone. Et je rentre chez moi, et le soir, à 22h, je reçois un petit texto de cette pharmacienne, qui s'appelle Fatih, je l'embrasse, où elle m'écrivait tout ce qu'elle avait traversé, en me disant, voilà, il faut s'accrocher, et vous allez y arriver. J'ai réussi. Parce qu'on m'a aidé, on m'a tendu une main. Donc vous pouvez réussir aussi. Et je vous promets que toutes les solutions sont dans le livre. Mais vraiment, et je dis pas ça du tout pour l'acheter et tout ça. Là, le fait que ce soit un succès en ce moment, ça me dit deux choses. La première, c'est que les gens me savent sincère et ils ont raison. Mais la deuxième aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont mal que malheureusement je le croyais.
Merci Mathieu d'être venu.
Merci
ici sur Fun Radio. C'était un réel plaisir de te recevoir.
Pareil.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.